L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 24 janvier 1989 à la prison d'État de Rayford en Floride. Sur la grande plaine qui fait face au bâtiment, ils sont plusieurs milliers à attendre depuis de longues heures déjà. La veille au soir, le lieu a pris des airs de fête. La bière a coulé à flot parmi les étudiants venus nombreux. On brandit des calicots, des t-shirts et des pins sont mis en vente. Sur les t-shirts, on peut lire « Burn, Bundy, burn ». Brûle, Bundy, brûle. Et les pins, vendus 5 dollars, sont en forme de chaise électrique. Car ce que cette foule survoltée attend, en face de la prison de Rayford, c'est l'exécution d'un homme. Un serial killer qui, pendant 5 ans, a semé la terreur à travers le pays, tuant ses victimes dans 6 états différents. L'homme s'appelle Theodore Robert Bundy, dit Ted. Il a 42 ans. Son parcours criminel et sa vie s'achèvent donc ici, quand on abaisse la manette en voyant le courant électrique. À 7h07 du matin, le décès est constaté et la foule explose d'une joie libératrice, mais ô combien malsaine. 7h07, sur la chaise électrique de la prison de Rayford, Ted Bundy décède. 7h07, l'heure H de mon histoire. Près de 35 ans après sa mort, Theodore Robert Bundy continue de fasciner. Car de cet homme, qui a fait naître l'expression même de serial killer, on n'a toujours pas percé tous les mystères. Et, bien plus tragique, on n'a jamais pu établir la liste définitive de ses victimes. Il y en aurait eu une trentaine, d'après ses aveux, quelques jours avant sa mort. Mais, même pour lui, ça semble flou. Il ne sait plus non plus combien de corps il a enterrés. Bon, je dirais une dizaine, a-t-il dit. Ni à combien de jeunes femmes il a coupé la tête. Oui, vous avez bien entendu, oui. Couper la tête, oui. Après les avoir étranglés, battus, violés, il leur a parfois coupé la tête. Alors, autant vous prévenir, le récit qui suit n'est pas à mettre dans les oreilles des plus sensibles. J'aime regarder les choses dans l'ordre chronologique, disait Bundy. L'heure, la date, le lieu. Alors, partons sur ses traces. Dans la chronologie macabre de son existence. Theodore Robert Bundy naît Conwell, le 24 novembre 1946, à Burlington, dans le Vermont. Sa maman, Eleanor Louise, 22 ans, accouche dans un foyer pour mère célibataire. Elle ne veut pas de cet enfant qui n'a pas de père. C'est peut-être un vétéran de l'US Air Force, peut-être un marin, on ne sait pas. Toujours est-il qu'après avoir donné naissance à un petit garçon, elle quitte la clinique et rentre chez ses parents. Le père de Louise, le grand-père de Ted donc, ne l'entend pas de cette oreille. Il l'oblige à aller récupérer son bébé. Louise, ne voulant pas s'en occuper, Ted est donc élevé par ses grands-parents à Philadelphie pendant les 3 premières années de sa vie. Mais le papy est violent. Il bat sa femme et déteste tout ce qui n'est pas lui. Les Noirs, les Juifs, les Italiens. Il lui arrive aussi de s'adresser à des présences invisibles. Ted grandit dans ce drôle de climat entre les coups de gueule et les coups tout court. A-t-il été maltraité lui aussi ? C'est possible. En tout cas, dès son plus jeune âge, on remarque qu'il peut avoir des comportements très étranges. Ainsi, sa tante Julia, la sœur de sa mère, se réveille un jour d'une sieste entourée de couteaux de cuisine. Ted, 3 ans, se tient là près du lit. Il sourit. En 1950, Louise récupère le gamin et va s'installer à Tacoma, dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Elle y rencontre Johnny Culpepper Bundy et l'épouse un an plus tard. Johnny adopte officiellement Ted. Quatre autres enfants viennent égayer le foyer. La famille était plutôt démunie, se souvient une voisine des Bundy à Tacoma. Mais ils étaient très convenables. La mère était secrétaire, Johnny était un très bon père, les enfants participaient à des camps bibliques, mais Ted était différent. Plutôt introverti, Ted a du mal avec les relations sociales et amicales. Bon, il le sait, mais c'est compliqué. Il souffre d'un problème d'élocution, ce qui lui vaut d'être constamment l'objet de moqueries. Il a du mal à s'intégrer chez les scouts. Il n'est pas habile dans les jeux, ne parvient pas à faire des nœuds pour monter les constructions. En revanche, avec l'un de ses camarades, il construit des pièges et creuse des trous dans lesquels il place des branches acérées qu'il recouvre ensuite de feuilles. Une petite fille en fera les frais et aura les jambes gravement blessées. Peut-on y voir des signes avant-coureurs de la furie criminelle qui va s'emparer de lui au début des années 70 ? Les nombreux psychiatres qui ont étudié son cas ne parviennent pas à se mettre d'accord. Catégorique lui affirme que, je cite, « Il n'y a rien dans mon passé qui pourrait expliquer que j'ai été capable de commettre des meurtres. » Car si Ted Bundy souffre de gros problèmes psychologiques, c'est aussi un garçon très intelligent, charmeur et même plutôt beau gosse. Mais l'amitié reste pour lui un concept abstrait. « Je ne savais pas ce qui faisait que les gens voulaient être amis », expliquera-t-il des décennies plus tard, quand il sera derrière les barreaux. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre chère chronologie. Durant l'adolescence, Ted n'a pas de véritable passion, à part peut-être le ski. À défaut de pouvoir se payer le matériel requis, il le vole et falsifie les billets des remontées mécaniques. Il est arrêté deux fois, car on le soupçonne de vol de voiture et de cambriolage. Mais comme c'est la règle, en l'état de Washington, à 18 ans, son casier judiciaire redevient vierge. Et ceci aura son importance des années plus tard. Après ses études secondaires, au Woodrow Wilson High School, où ses amis le décrivent comme un gars plutôt apprécié, un poisson de taille moyenne dans un grand aquarium, Ted s'inscrit en fac. En 1966, il est étudiant à l'Université de Washington, à Seattle. Jamais à court d'adjectifs quand il s'agit de parler de lui, il se décrit comme un jeune homme présentable et aimable. Après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je compensais mon introspection en adoptant un air distant, arrogant et intello, ajoute-t-il. Ce qui lui vaut d'attirer le regard de Diane Edwards, une grande et belle Californienne, issue d'une riche famille de la côte ouest. Pour une première petite amie, c'était pas si mal, dira Ted avec un certain détachement. Pourtant, sa relation avec Diane et surtout leur rupture vont avoir des effets durables sur Ted Bundy. Ses études de psychologie terminées, il se tourne vers la politique. Oh, pas comme candidat, non, il est bien trop jeune, mais ça l'a toujours intéressé. À ses amis de lycée, faisant le fier à bras, il affirmait d'ailleurs que son objectif était la présidence des États-Unis, rien que ça. En attendant, en tant que républicain pur et dur, conservateur, il apporte son soutien à Richard Nixon. Les manifestations pacifistes l'indisposent. Il ne supporte pas ses babacos, le fumeur de joint. Frayer dans le milieu politique pour Ted, c'est aussi soigner son image. Chez lui, cette dernière est d'une importance capitale. Il a une vie sociale, sa confiance en lui grimpe en flèche et, pour la première fois, il couche avec une fille. Diane l'apprend et elle n'apprécie pas. Déjà qu'elle le trouvait peu ambitieux, cette fois c'en est trop. Elle rentre en Californie. Finie la belle histoire. Ted est triste, très triste, mais surtout furieux. En 1973, sûr d'être brillant et supérieur à ses condisciples, il s'inscrit dans différentes facs de droit. Hélas, quand il reçoit ses résultats, il est effondré. « Médiocre », lui dit-on. Il se rabat sur des cours du soir où il espère obtenir son diplôme. Entre sa rupture qu'il rumine toujours et la fin de non recevoir des prestigieuses écoles qu'il visait, ça fait beaucoup pour le jeune homme tourmenté qu'était Bundy. Durant un déplacement à Sacramento avec l'équipe du Parti républicain, il reprend contact avec Diane, qui le trouve changé, plus sûr de lui. Elle lui rend quelques visites à Seattle. Il parle même de mariage. Mais en janvier 1974, sans lui donner l'ombre d'une explication, il coupe les ponts. Quelque chose semble s'être fissuré en lui. Il ne participe plus aux cours que de manière sporadique, pour les abandonner complètement au mois d'avril. Deux mois plus tard, en juin 1974, Linda Ann Healy, 21 ans, étudiante à l'Université de Washington, disparaît mystérieusement. Elle doit prendre l'antenne le matin à la radio locale où elle présente la météo pour les skieurs. On l'attend, mais Linda reste introuvable. Bon, on se dit qu'elle est sans doute malade, mais c'est pas dans ses habitudes de ne pas prévenir. La police prend toutefois l'affaire au sérieux. Sa chambre est fouillée. Sur les draps de son lit bien fait, on trouve du sang. Sur l'oreiller aussi. Linda, elle, s'est volatilisée. En juin, une autre jeune fille, Georgiane Hawkins, 18 ans, disparaît à son tour. Elle habitait à quelques blocs de la résidence de Linda Ann. Le malaise s'installe dans la communauté étudiante. Mais jusque-là, on ne parle que de disparition, pas de meurtre, même si le sang retrouvé chez Linda Ann laisse présager du pire. D'autant que la liste s'allonge quand on fait le lien avec d'autres faits similaires. Gail Manson, Suzanne Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball. Elles ont entre 18 et 22 ans. Nous en sommes donc à 6 disparitions non résolues en moins de 6 mois. Le malaise se transforme en terreur. La police patauge. Elle n'a pas le moindre indice, le moindre suspect. Bon, pour tout dire, elle ne sait même pas si on parle d'un ou de plusieurs tueurs. Toutes ces disparitions ont lieu à l'ouest de l'État de Washington et dans le nord de l'Oregon voisin. Gail Manson n'arrivera jamais au concert de jazz où elle projetait de se rendre. Roberta Parks, elle, s'en allait prendre un café avec un ami. On ne la reverra jamais. Et Suzanne Rancourt disparaît tandis qu'elle se dirige vers un cinéma. Le jour de sa disparition, deux étudiantes se rendent au commissariat de police pour signaler deux rencontres avec un homme portant un bras en écharpe et qui leur a demandé de l'aider à transporter des livres jusqu'à sa voiture. Une coccinelle de couleur brun clair. Enfin, Brenda Ball disparaît à son tour le 1er juin. La dernière fois qu'on la voit, c'est sur le parking, près de l'aéroport de Seattle. Elle est en train de discuter avec un homme portant un bras en écharpe.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous mettons nos pas dans ceux de Ted Bundy, l'homme pour qui fut inventé le terme de serial killer. Un meurtrier séducteur, diabolique et très intelligent. Un an avant le début des disparitions, Ted Bundy, fort de ses connaissances en droit, travaille brièvement pour la commission criminelle de Seattle. Les archives des commissariats du comté de King étaient lamentables, dit-il au journaliste Stephen Michaud, qu'il a longuement interviewé en prison. Je travaillais sur des crimes contre les femmes, en particulier les viols. On devait donner des conseils à la police sur la manière de les prévenir. Ce qui lui donne accès à de nombreuses statistiques de la police, mais également à la manière dont elle travaille. Il sait très exactement ce que la police fait ou ne fait pas. Alors, il s'en sert. Il tire parti du manque de coordination des différentes juridictions, ce qui lui permet d'avoir toujours un temps d'avance. À la commission criminelle, il rencontre Carol Ann Boone. Une grande femme mince aux cheveux noirs qui porte de grandes lunettes. Elle est divorcée et a un fils. Il se lie d'amitié. Elle semble le comprendre mieux que personne. Carol Ann, retenez bien ce prénom, car vous en entendrez parler à nouveau, croyez-moi. Côté cœur, à l'époque, Ted fréquente Elisabeth Klupfer, dite Liz. Elle aussi divorcée et mère d'une fillette qu'elle élève seule. Il la rencontre dans un bar et elle tombe aussitôt sous son charme. Elle est amoureuse. Ted ? Pas vraiment. Bon, il la trouve gentille, a du respect pour son engagement auprès de la communauté religieuse mormone, mais il n'a pas grand-chose à partager avec elle. Leur relation est houleuse, mais mine de rien, elle dure. Et puis arrive l'été. En 1974, l'Amérique vit alors du flower power. Les filles portent des mini-jupes, des fleurs dans les cheveux. Elles ne cachent plus leur corps, surtout quand il fait aussi beau que cet été-là, au bord du lac Sammamish. 40 000 personnes sont venues faire la fête, se baigner, participer à des activités. Au milieu de cette foule, les jeunes filles se sentent en sécurité. Pourtant, dans l'ombre, un prédateur guette. Denise Naslund, 18 ans, et Janice Ott, 23 ans, vont en faire les frais. Comme les six autres avant elles, elles vont purement et simplement disparaître. Mais pour le coup, on a des témoins. Ils ont vu un homme suspect s'approcher des deux jeunes femmes et ont surpris un bout de conversation. « Hello, je suis Jan !» a dit l'une des deux filles. « Hello, moi c'est Ted !» a répondu le mystérieux inconnu. D'autres filles racontent qu'elles ont été abordées par un jeune homme séduisant qui avait un bras plâtré et qui avait besoin d'aide pour accrocher son voilier à sa voiture. « Ah bon ? Quel genre de voiture ?» s'enquiert la police. Et devinez quoi ? Il s'agit d'une coccinelle brun très clair. Pour la première fois, les policiers peuvent s'accrocher à quelque chose d'un peu plus concret. On dresse un portrait robot. On a un prénom, Ted, et cette coccinelle qui revient dans plusieurs témoignages. Ouais, seulement voilà. La voiture star de chez Volkswagen s'est vendue comme des petits pains. En 1974, rien que dans l'État de Washington, on en compte 42 000. Mais on ne se décourage pas. On fouille dans les bases de données, on recoupe et on se retrouve avec 1000 suspects potentiels. Alors on affine les recherches pour n'en garder que 100. C'est énorme. Un mois plus tard, tandis qu'une forme de découragement s'est emparée des brigades d'enquête, la police reçoit un appel d'une femme inquiète du comportement de son petit ami. Il s'appelle Ted Bundy, dit Liz Klupfer. Il m'a parlé d'un incident quand il a suivi une étudiante. Oui, il fait ça parfois, suivre les gens. Chez elle, elle a trouvé un sac avec des sous-vêtements féminins, mais aussi du plâtre et des bandages. Et puis il y a ce bol, rempli de clés, dont elle ne sait pas quelles portes elles peuvent bien ouvrir. Le faisceau d'indices s'épaissit, d'autant que Bundy n'a pas d'alibi pour le soir des meurtres. On montre une photo de lui à 8 personnes qui étaient présentes au lac Sammamish, un mois plus tôt. Et, tenez-vous bien, 7 d'entre elles disent que ce n'est pas lui. Avec son visage au trait régulier, sa coiffure passe-partout, Ted Bundy est une sorte de caméléon qui, avec quelques artifices comme des lunettes ou une casquette, change de tête en un rien de temps. Alors, comme aucun lien ne le relie au crime, que l'on ne trouve aucune empreinte, qu'il n'y a pas de témoin oculaire des meurtres, il ne peut y avoir de charge retenue contre lui. À ce moment-là, il ne sera même pas entendu par la justice. Ted Bundy est un jeune homme bien sous tout rapport, propre sur lui, le gendre idéal. Et son casier judiciaire est vierge, souvenez-vous. Faute de piste, le grand bataillon d'enquêteurs qui avait été mis en place se disloque. Par ailleurs, les disparitions et les crimes semblent s'être arrêtés. Et pour cause, en septembre 1974... Ted Bundy part s'installer dans l'Utah, dans le but officiellement de s'inscrire à l'université. Oui, encore, pour poursuivre son cursus en droit. J'étais presque euphorique devant les paysages majestueux, dit-il plein d'emphase. La vraie raison de ce déménagement est tout autre. Je ne voulais pas être repéré. Je devais parcourir de longues distances pour préserver mon anonymat. Oh, dans un premier temps, ça semble marcher. Comme à son habitude, Ted séduit par son allant, son sourire, son sens de l'humour. Il est accueilli à bras ouverts par la communauté mormone et se montre très actif au sein de l'Église. La couverture parfaite, en somme. À l'automne 1974, des jeunes filles se mettent une nouvelle fois à disparaître. Melissa Smith, 17 ans, ne donne plus signe de vie à partir du 18 octobre. Elle sera retrouvée une semaine plus tard, étranglée par un bas de nylon. Elle a été battue, étranglée, violée et sodomisée. Puis, ce sont Nancy Wilcox, 16 ans, et Laura M., 17 ans, qui disparaissent de la surface de la Terre. On ne retrouvera jamais le corps de Nancy. Laura, elle, sera retrouvée le 27 novembre. Et pourtant, personne ne fait le rapprochement avec les disparitions et les meurtres de Seattle et ses environs. Le plan diabolique de Bundy a fonctionné. Il lui a suffi de mettre 1300 kilomètres entre son ancienne vie et la nouvelle pour brouiller les pistes. Le 8 novembre, une semaine à peine après la disparition de Laura M., Ted Bundy repart en chasse. C'est sur le parking d'une galerie commerçante qu'il repère sa proie. Elle s'appelle Carol Daronge. Et elle ressemble à toutes les autres. Jolie, de longs cheveux, élancée. Tandis qu'elle flâne, elle est approchée par un homme qui dit être policier. « Votre voiture a été cambriolée, » dit Bundy. « Est-ce que vous voulez bien me suivre pour vérifier ce qu'on vous a volé ?» L'uniforme et la belle gueule de l'agent la rassurent. La jeune femme le suit, sauf que sa voiture est intacte et que rien ne manque. Mais il insiste. « Nous avons arrêté un homme. Il est déjà au commissariat. Vous voulez bien m'accompagner ?» Là, Carol se dit que quelque chose cloche. Elle lui lance « Vous pouvez me montrer votre insigne ?» Bundy s'exécute et sort un badge. Bon, soit. Mais elle est prise d'un nouveau doute quand elle voit la voiture du soi-disant policier. Il s'agit d'une coccinelle brun clair qui n'est plus de première jeunesse. « Ouais, voiture banalisée sans doute », se dit-elle. En quittant le parking, la voiture ne prend pas la direction du commissariat, mais s'enfonce dans de petites ruelles avant de s'arrêter. Bundy lui attache une main avec une menotte, mais Carol se débat et il ne parvient pas à attraper l'autre. Il sort une arme, la menace de lui exploser la tête. Carol met toutes ses forces dans la lutte qui s'ensuit. Elle parvient à sortir du véhicule, tandis que Bundy la poursuit avec un pied de biche. Miraculeusement, une voiture s'approche dans l'autre sens. La jeune femme s'engouffre dans l'habitacle et hurle « Pitié, conduisez-moi au commissariat !» Ted est furieux qu'une proie lui échappe, le met de très mauvaise humeur. Qu'à cela ne tienne. Puisque cette pulsion sexuelle et meurtrière ne le quitte pas, il va trouver une autre victime, et vite. À peine 4 heures plus tard, il repère Debra Kent, une lycéenne de 17 ans. Elle quitte l'auditorium où elle se trouve pour aller chercher son petit frère à l'école. On ne la reverra jamais et on ne retrouvera jamais son corps. Sur le parking, par contre, on trouvera la clé des menottes que Bundy a attachées au bras de Carol Daronge. Lise Klupfer, qui connaît peut-être Bundy mieux que personne, se rend compte des similitudes entre les disparitions de Salt Lake City et celles de Seattle. Elle rappelle donc la police et elle est écoutée avec un peu plus d'attention. Mais quand Ted vient passer une semaine avec elle à Seattle, début janvier 75, elle se garde bien de dire qu'elle a parlé au shérif. S'étant fait remarquer et presque attraper en Utah, Ted Bundy déplace ses activités dans le Colorado. C'est à Snowmass, à 650 km de Salt Lake City, qu'il choisit sa nouvelle victime. Karine Campbell vient de finir son repas à l'hôtel Wildwood Inn. « Je monte dans la chambre pour aller chercher mes magazines », dit-elle à son compagnon. Elle s'engouffre dans l'ascenseur. Il ne la reverra plus jamais. 36 jours plus tard, son corps entièrement nu sera retrouvé à 5 km de là. Deux autres victimes viendront allonger une liste de plus en plus longue. Julie Cunningham et Denise Oliverson. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. À Seattle, pendant ce temps-là, l'enquête fait du surplace. jusqu'au jour où des étudiants forestiers, partis marquer des arbres dans les Taylor Mountains, font une macabre découverte. Un crâne d'abord, et plus loin, des squelettes. Le crâne est celui de Brenda Ball. Au total, les restes de 6 filles sont retrouvés là. C'était sa décharge, dit un policier écœuré. Et pourtant, malgré tout, Ted Bundy passe entre les mailles du filet. Des failles dans le système policier ont permis à l'individu de s'en sortir, dit-il, parlant de lui à la troisième personne. Comme si d'acteur, il était devenu spectateur de ce macabre spectacle. Un coup de théâtre, pourtant, va survenir le 16 août 1975. Ted Bundy est au volant de sa coccinelle. Il roule tout feu éteint, ce qui intrigue Robert Hayward, un policier en patrouille qui décide de le suivre. Bundy prend la fuite, mais il est rattrapé et arrêté. Dans sa voiture, on découvre tout l'attirail d'un parfait tueur en série. Un masque de ski, un autre fabriqué avec des bas de nylon, un pied de biche, des menottes, une bobine de corde et j'en passe. On fait le rapprochement avec la voiture dans laquelle a été enlevée Carol Darunch. On fouille son appartement à Seattle et on découvre une brochure sur les stations de ski où l'hôtel Wildwood Inn est souligné. L'étau se resserre. Les preuves sont accablantes. Mais seront-elles suffisantes? Ted Bundy sent que le vent tourne. Il appelle un avocat, Bruce Lubeck, et lui demande d'assurer sa défense. John O'Connell le rejoindra ensuite. Au début, il ne s'agit que d'une affaire mineure, presque une erreur. Jugez plutôt. Ce garçon est diplômé de l'université. Il est membre de l'église mormone. Le procureur ne lâche pourtant pas l'affaire et fait procéder à une identification en présence de Carol Darunch. Pour brouiller les pistes, Bundy s'est coupé les cheveux et a tout simplement changé sa raie de côté. Ça lui fait une autre tête, c'est sûr, mais ça ne suffit pas à tromper Carol. Ted Bundy est donc inculpé de kidnapping. Et enfin, on a fait le rapprochement avec le Ted de Seattle. Afin de partager leurs informations et en vue d'un procès annoncé, les enquêteurs des États concernés se retrouvent à Aspen, dans le Colorado. Leur hache de Ted Bundy n'est pas pour tout de suite, mais le long des comptes semble bien avoir été déclenché.
L'heure hache. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure hache, nous nous intéressons à l'un des tueurs en série les plus sauvages qu'aient connu les États-Unis. Ted Bundy a reconnu une 30aine de meurtres et on est sans doute en deçà du nombre exact. Le 23 février 1976, le procès de Ted Bundy pour l'enlèvement de Carol Darunch s'ouvre à Salt Lake City. Il n'y aura pas de jury dans la salle, selon la volonté de Bundy, conseillé par son avocat. C'est donc au juge, et à lui seul, qu'il reviendra de décider si Ted est oui ou non coupable. En l'occurrence, ce sera oui. Et le 30 juin, il est condamné à 15 ans d'emprisonnement et incarcéré à la prison de l'État d'Utah. En octobre, les autorités du Colorado l'accusent du meurtre avec préméditation de Karine Campbell et demandent son extradition. D'abord, Bundy résiste, presque pour la forme, puis il finit par accepter. Son transfert a lieu le 28 janvier 1977. Là, son attitude change complètement. Il est fou de colère. Vous vous imaginez. Il est traité comme tous les autres détenus. Lui, Ted Bundy, le génie du mal. Alors une fois de plus, il décide de se mettre en scène. Car avec le temps, il est presque devenu une star. La télé va l'interroger dans sa cellule. Et il faut lui laisser ça. Ted Bundy sait faire le show. Il plaisante, il séduit et surtout, il répète encore et encore qu'il n'est coupable de rien. Dans le même temps, dans les quelques mètres carrés qui sont aujourd'hui sa maison, il se prépare. Il saute du haut de son lit, s'entraîne à se changer le plus rapidement possible, note tout, voit tout et attend son heure. Son procès s'ouvre à Aspen, au Colorado donc, en juin 1977. Pendant une pause, Ted Bundy demande à pouvoir consulter des livres juridiques à la bibliothèque. Il ne porte ni menottes, ni chaîne. Il est à peine surveillé. Alors il ouvre la fenêtre et saute du deuxième étage, 7 mètres. Il se blesse à la cheville en atterrissant, mais qu'importe. Il se retrouve à l'air libre. Je me souviens d'un matin radieux. Le sommet de la montagne brillait des premiers rayons de la lumière d'été, dit-il. Sa cavale commence. Les routes, il y en a deux, qui mènent à Aspen sont bloquées. Les policiers sont partout. Et Bundy, nulle part. 150 hommes armés le traquent sans relâche, mais il reste invisible. Je me sentais très bien, même si je ne savais pas où aller et que je n'avais pas d'argent, témoigne-t-il impassible. Dans les collines, il trouve un chalet où il s'installe. Au bout de quelques jours, à court de nourriture, transi de froid, affaibli, il décide de rentrer à Aspen. Il vole une voiture, s'apprête à quitter la ville, mais fait finalement demi-tour. Coup de chance. « Ils m'ont arrêté, » dit-il en riant presque. Ted Bundy a perdu 10 kilos. Il est pieds nus quand il arrive à la prison, mais il prend le temps de sourire aux caméras. Retour à la case départ, donc. Pendant les mois qui suivent, il ne s'avoue pourtant pas vaincu. Il observe toutes les possibilités de fuite et le 30 décembre, il en trouve une qui lui convient. Ce soir-là, le garde lui apporte son repas, puis repart. Le lendemain matin, il retrouve le plateau intact. Bundy a l'air de dormir. Mais quand il soulève la couverture, il ne trouve qu'une pile de livres. Le serial killer s'est fait la malle, une nouvelle fois. Pour se faufiler dans un trou de plafond, Ted Bundy s'est littéralement affamé. Il ne pèse plus que 63 kilos. Il rampe dans les conduits jusqu'à l'appartement des gardiens. Là, il se change, enfile des vêtements de maton et sort par la porte principale. Et ce coup-ci, on n'a aucune idée de l'endroit où il est allé. À ce moment-là, les policiers sont convaincus qu'il va recommencer. Alors, ils contactent toutes celles et ceux avec lesquels il pourrait entrer en contact, famille, amis, et puis Liz, à qui Ted parle régulièrement au téléphone. Le FBI entre dans la danse, mais n'est pas d'une grande aide. Les informations ne circulent pas. On perd du temps. Se créer une identité n'est pas difficile à faire. Pas du tout, se dit Ted. Alors, il va devenir quelqu'un d'autre. Cette transformation lui permet de voyager à travers le pays sans être inquiété. Jugez plus tôt. Pour quitter Aspen, il prend un bus direction Denver, puis un vol vers Chicago. Ensuite, il monte dans un train vers Ann Arbor, où il assiste, c'est surréaliste, à un match de foot américain avant d'aller se saouler dans un bar. Il vole une voiture et met le cap sur Atlanta, où il abandonne le véhicule pour prendre un nouveau bus vers Tallahassee, en Floride. Soit, tenez-vous bien, un périple de 3800 km sans jamais être inquiété. C'est hallucinant. Ah, pourquoi la Floride? Pour Ted, à qui l'on posera la question, c'est évident. Parce que c'est à l'opposé de là où il vivait. Les probabilités d'être reconnu étaient minces, dira-t-il. Nous sommes en janvier 1978. Un homme entre dans une résidence universitaire muni d'une solide bûche de chêne. Il tue deux femmes. Margaret Bowman, d'abord, battue, étranglée, agressée sexuellement. Elle meurt dans son lit. Lisa Levy connaît le même sort. Karen Chandler et Kathy Kleiner, elles, survivent, malgré les coups et les fractures. Sur la scène de crime, l'inspecteur reçoit un appel. On lui signale qu'à 6 blocs de là, une bagarre semble avoir éclaté. Il y a des cris, du bruit. Le policier se dit que c'est impossible qu'il ait déjà remis ça, mais il envoie tout de même une patrouille. Cheryl Thomas, une étudiante en danse, gît pourtant bien dans une mare de sang, mais elle est vivante. À la morgue, le même inspecteur constate que sur l'un des corps, il y a des traces de morsures profondes. Il le note. Il va s'en servir. Le voyage meurtrier de Ted Bundy se poursuit. Le voici à Lake City, toujours en Floride. 40 jours après s'être évadé, soit le 9 février 1978, il s'en prend à une toute jeune fille, 12 ans à peine. Kimberly Leach se rendait à l'école. Elle n'y arrivera jamais. L'étape suivante, et la dernière, sera Pensacola. Le jour que j'y ai passé a été l'un des plus beaux de ma vie, se souvient le tueur qui se fait poète. Je me suis dit, quelle belle manière de commencer l'année. Il se repose à la plage, offre son corps au soleil. Il est bien. Mais le 15 février, soit le 46e jour de sa cavale, il est arrêté par un policier car il roule presque trop lentement et avec une voiture volée, s'il vous plaît. Il est arrêté et sur lui, on découvre 21 cartes de crédit, toutes volées, elles aussi. Ted Bundy résiste. Il se débat et refuse de donner son nom. Il donne d'abord une fausse identité avant de se murer dans le silence. Il est accusé de vol, de recel d'objets volés, d'avoir résisté à une arrestation. Devant le juge, il réprime un sourire. S'il savait, cet homme de loi, ce dont il est coupable. L'homme mystère, comme le surnomme la presse, va donc rester derrière les barreaux jusqu'à ce qu'on parvienne à l'identifier. On fouille la voiture, mais on ne trouve rien. Pas de cheveux, pas de fibres. Enfin, comme s'il n'en pouvait plus, il accepte de parler. Oh, « J'en ai marre d'être enfermé », dit-il au policier. Il finit par décliner son identité en échange d'un coup de fil à Lise. « Je suis malade, consumé par quelque chose que je ne comprends pas et que je ne peux pas contenir », lui dit-il. En somme, il prépare déjà sa défense. Mi-février, toutes les pièces du puzzle semblent vouloir s'assembler. Enfin, on le relie au meurtre de la jeune Kimberly Leach, dont le corps est retrouvé 8 semaines plus tard dans une cabane abandonnée. En avril, les preuves accumulées contre lui sont suffisantes pour l'inculper. Mais il fanfaronne encore. Au shérif, il déclare « Quand vous retrouverez la personne qui a commis les crimes que vous croyez que j'ai commis, cette personne sera recherchée pour un nombre de meurtres de femmes à 3 chiffres, dans 6 États. » C'est un aveu, en quelque sorte. En prison, on prend ses empreintes dentaires, histoire de les comparer avec les morsures trouvées sur les cadavres. Le 9 mai 1979, le procès qui s'ouvre en Floride est hors norme. Des journalistes sont venus de tous les États américains et de 9 pays étrangers. Ted Bundy va pouvoir montrer l'étendue de ses talents d'acteur au monde entier. Du moins, le croit-il. Son avocat commis d'office lui dit pourtant de faire profil bas, d'avoir l'air innocent. Il lui conseille de plaider coupable pour avoir les vies sauves. Mais Bundy n'en a que faire. Le 1er juin, dans un palais de justice qui fait sale comble, il prend la parole pour dénoncer l'incompétence de ses avocats. Il devient, tenez-vous bien, co-consultant dans son propre procès. Le 1er juillet, il entre dans la salle du tribunal, vêtu d'un pull à col roulé crème, sous un veston noir. Il plaisante avec la presse. Pendant l'audience, il détourne l'attention du procès avec des demandes farfelues. Il veut une machine à écrire et aussi de meilleurs repas. Il n'en peut plus des croque-monsieur. Plus dingue encore, il contre-interroge le policier qui est arrivé le premier sur la scène des meurtres de Lisa Levy et Elizabeth Bowman. Ces meurtres. Ce faisant, il met en lumière toute l'horreur de ce qu'il a accompli. Dans l'assistance, une grande femme à lunettes boit ses paroles. C'est Carol Boone, son amie de toujours. Ted demande qu'elle vienne à la barre. Il lui pose quelques questions avant de lui lancer « Veux-tu m'épouser ?» Et elle accepte, évidemment. Ce que Ted ne voit pas venir, ce sont les preuves médico-légales apportées par l'odontologiste qui a examiné ses empreintes dentaires. Pas de doute. Pas de doute, c'est bien lui qui a mordu les victimes. Le 24 juillet, il est reconnu coupable de 2 meurtres et de 3 tentatives d'assassinat. Il est condamné deux fois à mort. Le 7 janvier 1980, un nouveau procès s'ouvre à Orlando, toujours en Floride. Cette fois, Ted doit répondre du meurtre de Kimberly Leach, 12 ans. Le 7 avril, il se marie avec Carol Boone. Le lendemain, il écope d'une troisième condamnation à mort. C'est cette troisième condamnation qui sera exécutée 9 ans plus tard, à la prison de Rayford. Durant ces 9 longues années, Ted Bundy fera un enfant à Carol Boone, une petite fille, prénommée Rose. Il se confiera longuement au journaliste Stephen Michaud et, à quelques jours de son exécution, il soulagera sa conscience avec l'espoir d'obtenir un sursis. Il dira les mutilations, le sang, les coups. Il décrira des scènes insoutenables de nécrophilie, de tête coupée. Malgré les recours et une tentative de ses avocats de le faire passer pour inapte à être jugé, Ted Bundy est conduit le 24 janvier 1989 vers la chaise électrique. « Je suis désolé d'avoir causé autant d'ennuis », dit-il. Ce sont ses derniers mots. On couvre sa tête rasée d'un capuchon noir, relié à des électrodes. D'autres sont placés sur sa jambe. Un homme au téléphone donne le signal et on abaisse la manette. Une décharge de 2000 volts est envoyée, puis une autre, de plus faible intensité. À 7h07, Ted Bundy est déclaré mort. Son acte de décès en atteste. Voilà pour ce récit glaçant que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Jacqueline Van Der Beek.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.